Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, j'ai sous les yeux aujourd'hui un livre intitulé « Un Périgordais à Paris ». Alors, comme j'ai fait toute ma carrière à Paris, bien sûr, ça m'a intéressé. Alors, c'est un livre de Romain Bondoneau et c'est publié aux éditions du Ruisseau en 2005. Donc, c'est un livre tout récent. Alors, il y a bien sûr une quatrième de couverture. Alors, voici ce que l'on nous dit, Montaigne et la Boétie, la truffe et le caviar, Fénelon et Joséphine Baker, le silex du musée de l'homme et les réalisations futuristes de Jean Nouvel, la gastronomie et les couteaux de Nontron, la porcelaine d'Hermès et les dirigeants historiques de printemps, les traces du Périgord à Paris se sont avérées finalement bien plus nombreuses que prévues. Leur recension a été l'occasion d'une déambulation réjouissante dans les rues de la capitale. Les petits savoirs historiques se mêlent alors à des rencontres parfois inattendues, à des considérations saugrenues ou impertinentes et même quelques rivasseries poétiques. C'est vrai que Paris, bon, on peut faire un peu tout. Il y a les quais de la Seine, on peut flâner d'ailleurs sur les quais. Voilà. Alors, donc je poursuis ce texte comme une invitation à l'étonnement. Cette flânerie contrainte prétend aussi rappeler ce que Paris doit à la province. Une occasion pour s'amuser au jeu des différences entre la grande ville éblouissante et la belle campagne périgourdine. Alors, notre propos est joyeusement, donc le livre est joyeusement accompagné par de petits dessins de l'ami Daniel Maja, dessinateur historique du magazine littéraire et malheureux parisien. Alors, il y a bien sûr un petit texte pour Romain Bondoneau, qui est l'auteur, alors président fondateur des éditions du Ruisseau, professeur d'histoire et d'art visuel au lycée Joséphine Baker de Sarlat. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur le patrimoine historique, naturel et artistique du Périgord. Il s'intéresse aussi à l'histoire de la photographie, à la question du paysage et à la littérature classique. Alors il nous dit, je dédie ce petit livre à mon ami Sébastien Peytavi, député de la Dordogne, originaire de Borel, et le meilleur du Périgord à Paris, aujourd'hui, bien évidemment. Alors ça, on discuterait pas là-dessus. Et puis, bien sûr, il y a l'auteur des dessins. Alors, l'auteur des dessins, comme on l'a dit, c'est Daniel Maja. Alors, il est né en 1942 à Paris, le pauvre. Alors, Daniel Maja est un dessinateur de presse, illustrateur français. Il est également le créateur de l'affiche électorale de l'écologiste René Dumont pour les élections présidentielles de 1974. Ça nous plonge un peu dans le passé. Alors, en plus de ses collaborations régulières dans la presse, alors il a fait des dessins pour le magazine littéraire, Livre, Le Nouvel Observateur, Le Monde, The New Yorker, etc. Il a illustré plus d'une centaine de livres destinés à la jeunesse depuis 2009. Il a publié environ 1000 dessins sur son blog intitulé « La vie brève » pour les éditions du Ruisseau. Alors, il y a ce dimanche, Montaigne et nous en 2019, le petit Montaigne illustré en 2020, le petit taureau illustré en 2021, son épouse Ewa également artiste, a réalisé le portrait de Suzanne Lacor pour ce livre. Alors, Suzanne Lacor, bien sûr, on en reparlera. Alors, il y a un texte tout à fait au début, la genèse d'une folle déambulation. Alors, on voit quelqu'un qui achète une tour Eiffel, et évidemment, il y a loi qui est toujours présente. Alors, 1926, alors, genèse d'une folle déambulation, vers 1926, parution de Paysans de Paris. Compagnon de route de surréalisme naissant, le jeune Aragon adopte le point de vue d'un pecno qui découvrirait les charmes et les mystères de la capitale. La puissance du style s'impose déjà dans une évidence et la variété des registres s'inscrit peut-être encore dans la veine dadaïste. Un collage réjouissant avec descriptions détaillées, textes publicitaires, considérations historiques, références littéraires, maximes philosophiques, lyrisme poétique. L'auteur, que son stalinisme prochain rendra finalement peu sympathique, semble déjà maîtriser une palette littéraire éblouissante. Alors, on a déjà traité ce sujet. Alors, Aragon n'est pas sans rapport avec notre Périgord. Le hasard de la guerre l'amène en juin 40 sur les marches occidentales du département, au moment de l'armistice, Javeriac accueille l'unité du médecin auxiliaire Louis Aragon. Celui-ci étant rapidement démobilisé à Nontron. C'est même à Javeriac qu'elle a traîné, venu le rejoindre. Alors, petite commune où il aurait composé son premier poème de résistance, qui est sublime, Le Lilas et les Roses. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a déjà évoqué Aragon et Le Lilas et les Roses. Avant de s'engager résolument dans la clandestinité, en juin 1941, à la revue Fontaine que dirige Max-Paul Fouché, à Alger, Aragon fait paraître La leçon de Rubérac ou L'Europe française, un texte déchirant sur la France à genoux, sur l'esprit de résistance, des troubadours sur la nécessité de la poésie contre la barbarie. Ce texte fut intégré dans Les yeux d'Elsa en 1946. Alors, comme je disais, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué. Alors, bon, je vais continuer un peu ce texte. Alors, il y a la flânerie contrainte, cet oxymore, pourrait porter un sourire au lieu de profiter de la grande ville cosmopolite, de sa formidable variété, je n'y chercherai que du familier. Paris, comme toutes les villes du monde, est une promesse d'élargissement et de fascination, de mouvement permanent et de diversité infinie. C'est vrai que c'est très divers. Bon, j'ai un beau souvenir, finalement, de ma vie parisienne. Alors, donc, je reprends le texte. Moi, avec ma petite terre en bambandouillère, je ne monterai à la capitale que pour lui retrouver mes grands hommes et mes traditions. À la dilatation universelle et au grand air, je préférerais le rétrécissement et le renfermer. Pas loin de la France moisie, moquée jadis par Philippe Solaire, pourtant, quelle que soit la destination, on porte bien avec soi son histoire et ses lectures, son identité et ses représentations. Alors, impossible évidemment de se départir totalement de soi-même pour se fondre dans l'altérité. La mondialisation culturelle semble parfois même avoir aboli les différences, une triste normalisation planétaire qui aurait écrasé les singularités provinciales et nationales. Certes, Parisiens pure souche et Périgourdins sont sensiblement habillés pareil, parlent la même langue, votent aux mêmes élections et consomment les mêmes séries télévisées. Pas loin des différences frappantes avec lesquelles jouait Aragon il y a un siècle, on finira pourtant à l'idée que les distinctions subsistent quand même entre la campagne et la grande ville. Alors, je vais arrêter ce texte. Alors, bien sûr, il y a la Boétie, on l'a déjà évoqué, et puis il y a Montaigne. Il y a Montaigne, il y a des choses que j'ai apprises, bon, Périgourdin, je connaissais la statue de Montaigne, mais il y a d'autres statues de Montaigne, nous dit ce texte, qui hantent aussi discrètement Paris, singulièrement le Louvre, celle de Jean-Baptiste Stouff, réalisée en 1800, visible dans le musée El Richelieu, et celle qui orne l'une des façades extérieures, El Darus, sculptée par Jean-François Soitou en 1855 et 1857. Alors, il y a deux façons opposées de le représenter. Stouff choisit la manière antique, le buste nu, avec une musculature digne d'un dieu grec, incliné peut-être sous le poids de sa pensée. Il porte une plume dans sa main droite et un petit miroir dans l'autre. Le socle porte son fameux « que sais-je ». Une drôle de représentation. En bas-relief, une femme joue une sorte de lutte auprès d'un bébé allongé dans un petit lit. Comme Rabelais et Erasme, Montaigne n'avait-il pas recommandé d'user de la plus grande douceur dans l'éducation des enfants, pour que Montaigne, de la façade sage, est habillé, car là, il subit tout de même les caprices de la météo. Le sculpteur Soitou, élève de François Rude, et François Rude, c'est la Marseillaise de l'Arc de Triomphe, et le professeur Auguste Bartholdi, alors Bartholdi, c'est la statue de la liberté, choisit un philosophe grave au visage pensif, entouré de son inévitable collerette ou fraise. Voilà, alors, on va arrêter à cette description, on va reprendre un peu. Au tout début du XVIIe siècle, Pierre de l'Étoile, dont la statue habite la façade très peuplée de l'hôtel de ville, se moquait de cette mode de la collerette. Avoir la tête d'un homme sur des fraises, il semble que ce fût la tête de Saint-Jean sur un plat. Il est vrai que le nom de cette élégance plissée ne provient pas du succulent petit fruit rouge, mais de la fraise de peau là-bas qui l'entoure, l'intestin grêle servant pour la confection des andouillettes. Alors, Tout cela ouvre un appétit et nous invite à quitter provisoirement nos grands hommes à saut de gambade. Allons chercher de quoi nous restaurer tout en essayant de rester fidèles à notre servitude volontaire, ne jamais trop s'écarter du Périgord. Alors, il y a bien sûr beaucoup de chapitres, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Il y a un qui s'intitule « La grande bouffe ». Alors ça, la grande bouffe, bon, il y a un film, et puis il y a des dessins avec, bien sûr, une oie à chaque fois. Alors, la grande bouffe, le Périgord est une des régions de notre pays où l'on mange le mieux. Et depuis des siècles, cette phrase de Kurnonski, publiée en 1921, est souvent accompagnée d'une autre citation du même surnommé le prince des gastronomes, la cuisine du Périgord, et sans beurre, et sans reproche. Oui, la graisse d'oie, des frites, je pourrais dire des pommes de terre saladaises à la graisse d'oie, c'est pas bon non plus. Alors, je reprends le texte pour « Eu le courage de revoir le film Marco Ferreri » pour contrôler si le cuistot Ugo Tognazzi offrait à ses convives des principes d'aimer bien de chez nous, mais en Périgord, la grande bouffe est reine. Alors, on va reprendre un peu Kurnonski, pensait peut-être à une institution qui a longtemps régné au cœur du quartier latin, le restaurant Saint-Michel, au numéro 2 de la célèbre place, la vue sur la scène du restaurant d'Édouard Rousier, originaire de Simeyrol, repu pour ses recettes inspirées de son territoire, lui assure un succès éblouissant à partir des années 20. Dans un livre récent, Savoureux Périgord, c'est édité par Les Ardents, à Limoges, et en 2023, donc c'est un livre récent, que l'on peut se procurer. On rapporte le menu proposé pour la journée périgourdine du Salon d'automne en 1924. Alors voici ce menu très léger, évidemment, alors foie gras de Périgueux au Porto, l'omelette aux truffes, le lièvre à la royale, les cèpes farcis à la façon de Sarlat, les fromages, le fruit et le café Ribière. Ribière, c'est la marque du café. Alors, bon, il y a eu bien sûr, ces repas ont eu un certain succès, mais c'est vrai qu'il y a une époque où on mangeait quand même beaucoup plus que maintenant. Alors, puis il y a un petit dessin qui représente Daniel Mazet Delpeux, qui a été cuisinière à l'Élysée, et puis qui dit le poulet soustroyeuse pour tonton, bien sûr, étant le président de la République. Alors, on a compté, bien sûr, avec l'ordinateur, c'est facile, à l'aide de l'ordinateur, j'ai compté, donc, nous dit l'auteur, j'ai compté un café de Périgord, 40 rue Championnet, et 4 restaurants qui se réclament de notre petite patrie. Alors, il y a, bien sûr, ils sont tous cités, alors certaines boutiques participent tout de même au rayonnement de nos produits d'excellence. Meilleur ambassadeur des vins du Sud-Ouest, le caviste Julien de Savignac a ouvert 2 boutiques dans les rues qui ont préservé le commerce de bouche. Une au 73 rue Saint-Antoine, pour ceux qui connaissent Paris, c'est le 4e arrondissement, une autre rue 105 rue Cambronne. Alors là, c'est le 15e arrondissement que je connais bien. On y trouve beaucoup de bons Bergerac. Ils achètent fréquemment à Sarlat. Alors, il y a la Jauberti, les Essarts, la Tour des Jambes, le Clos des Verdeaux, etc. Des Montbazillac réputés et quelques bouteilles d'appellation connexes. Rosette Pécherman Montravel. Et pour le foie gras, une boutique spécialisée en propose de toutes sortes, mais à foie gras de luxe. Alors donc, il y a 26 rue Montmartre, premier arrondissement. Peu de produits issus du Périgord proprement dit. Mais plutôt des lardes, je crois que le foie gras des lardes n'est pas mauvais quand même. Voilà, donc on va arrêter là pour aujourd'hui cette liste, on la reprendra peut-être la semaine prochaine. Et je vous souhaite évidemment une bonne semaine, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.